carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Vous allez suivre la visite guidée de l'exposition Nicolas de Staël à la Fondation Pierre Janada à Martigny en Suisse. Elle a été enregistrée sur place dans les conditions du direct.
Une nouvelle fois, Canal Académie a le plaisir de se rendre à Martigny, en Suisse, à la Fondation Pierre Janada. Et son fondateur, Leonard Janada, a créé cette institution artistique en 1978, il est donc plus de 30 ans. Une institution vraiment mondialement renommée pour l'excellence de ses activités culturelles en général, et notamment des expositions et des concerts vraiment de tout premier plan. Alors aujourd'hui, notre visite est particulièrement sollicitée par une exposition somptueuse dédiée à Nicolas de Staël. Et c'est une rétrospective du peintre russe qui est présentée ici, donc à la Fondation Pierre Janada. C'est un des artistes européens les plus influents, vraiment, du XXe siècle, de toute l'après-guerre. Cette importante et remarquable exposition réunit, je crois, une centaine d'œuvres en provenance des plus grandes collections d'Europe et des États-Unis. Et c'est en compagnie de Marta De Giacomi que nos auditeurs de Canal Académie connaissent déjà, puisque nous avons eu le plaisir de faire une visite guidée ensemble à l'occasion de l'exposition Balthus, n'est-ce pas, il y a 2 ans. Et c'est en votre compagnie que nous offrons à nos auditeurs une visite guidée vraiment exceptionnelle à Martigny, à la Fondation Pierre Janada. Marta De Giacomi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'historienne d'art de la Fondation Pierre Janada. Pouvez-vous nous présenter déjà l'exposition dans son cadre général, s'il vous plaît?
Oui, donc l'exposition comprend 130 œuvres, 78 peintures à l'huile et 52 dessins. Effectivement, ce sont des prêts qui viennent un peu de partout, de la Phillips Collection Washington, de la Tate Gallery Londres, de la Norvège, de la Suisse, collections privées et publiques, Centre Georges Pompidou à Paris. Et pour préciser, en fait, nous avons focusé entre 1945 jusqu'en 1955 de l'œuvre de Nicolas de Staël.
C'est-à-dire les 10 dernières années de sa vie.
Oui, en fait, les 10 années les plus importantes, les plus riches aussi, les plus concentrées, où on peut vraiment suivre d'année en année son évolution stylistique, qui commence d'abord par l'abstraction et qui... En fait, oui, se terminera, on peut le dire, par une sorte de retour vers la figuration. Mais on verra ça tout à l'heure plus en détail devant les œuvres.
Oui, c'est en effet un cheminement assez particulier d'arriver de la première figuration, parce que je crois qu'au début, il suivait une école assez classique, n'est-ce pas? Et donc, il arrive à l'abstraction et, chose exceptionnelle, il revient quelque peu à la figuration. Mais comme vous dites si bien, on va voir ça plus en détail, mais c'est quand même assez remarquable, n'est-ce pas? Marta De Giacomi, vous voulez nous présenter un peu Nicolas de Staël, ce peintre vraiment extraordinairement subtil, fin et si important?
Oui, il a un parcours très particulier. Nicolas de Staël est né en Russie, à Saint-Pétersbourg, même si le nom ne sonne pas très russe. Nicolas de Staël von Holstein, donc la famille de la grande noblesse, qui était à l'origine une noblesse allemande, qui, au gré des siècles, va s'installer. Donc une branche sera installée en Suède, la deuxième branche en Russie, donc au bord de la mer Baltique. Alors, il est issu d'un milieu de la grande noblesse, puisque son père travaillait sous le régime du tsar. Ensuite, on connaît le parcours, la révolution russe éclate, la famille s'exile en Pologne. Et destin tragique, Nicolas de Staël, avec ses 2 sœurs, va perdre d'abord en 1921 sa mère et l'année suivante son père. Donc, nous sommes confrontés avec 3 orphelins.
Il a quel âge à cette époque?
Alors, il avait 8 ans et donc les 3 enfants seront pris en charge par une famille russe vivant en Belgique, près de Bruxelles. Et là, donc Nicolas de Staël avec ses 2 sœurs, donc ils vont non seulement apprendre le français, mais ils vont grandir, faire leur formation, donc l'école, le collège à Bruxelles. Et surtout, Nicolas de Staël, à l'âge de 16 ans, est décidé de devenir peintre. Il avait déjà cette passion pour la peinture. Il visitera le musée, en fait, les primitifs flamands. Donc, il s'enthousiasme devant les toiles de Vermeer, de Rembrandt. Il va dans les musées musée. Ensuite, en 1935, par exemple, il part à bicyclette avec un ami en Espagne. Il visite les hauts lieux de la culture espagnole, dont le Prado surtout, le Prado à Madrid, où il verra les grands maîtres espagnols, Velázquez, Goya, etc. Donc, il faut toujours se dire que Nicolas de Staël était et sera toute sa vie fasciné par la peinture traditionnelle, surtout par les maîtres anciens.
Et donc, ça, c'était dans les années avant la Deuxième Guerre mondiale, si j'ai bien compris.
Exactement. Donc, et en plus, il va faire sa formation. Donc, il ira à l'Académie royale des beaux-arts à Bruxelles et à l'Académie Gilles, où il fait sa formation de peintre. Mais surtout, une véritable formation, il va la faire durant ses voyages. Et notamment, en voyage au Maroc, qu'il commencera en 1936. Et là, il est vraiment ébloui par les couleurs, par l'ensemble. Il s'instruit davantage au Maroc, à Marrakech. Il a l'occasion de loger chez un enseignant français au collège musulman. Et là, il lit entre autres aussi donc, la correspondance entre Vincent Van Gogh et son frère Théo. Il se pose sans cesse des questions. Il a déjà cette pulsion vers la peinture, comment peindre, comment dessiner. Et toujours au Maroc, il va connaître en 1937 une femme peintre, 5 ans plus âgée que lui, Jeannine Guillou, qui deviendra sa femme et avec laquelle donc, il partira ensuite donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale à Paris, à Nice, etc.
Et avec qui il a un enfant, n'est-ce pas? Et cette Jeannine qui reste, je crois, le grand amour de sa vie.
Alors, Jeannine, c'est son premier grand amour de sa vie. Il vit avec elle à Paris, mais son destin est tragique de nouveau. Durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est difficile de se nourrir. La matière picturale est rarissime et très chère. Alors, elle va finalement mourir en février 1946.
De faiblesse. Finalement, de pauvreté, de faim et de froid.
On peut dire, oui.
On peut lire dans la documentation. C'est assez inimaginable aujourd'hui.
Oui, absolument. Absolument, oui. Mais il va donc très vite se reprendre. Quelques mois plus tard, de la même année, en mai 1946, il épousera Françoise Chapouton, qu'il avait déjà connue au début des années 40. Elle se trouvait là, en fait, dans sa présence. Alors, il va épouser donc, Françoise et être heureux. Il est heureux.
Et à partir de là, il y a toute une autre évolution artistique.
Voilà. Alors là, maintenant, nous sommes ici donc, au début de l'exposition. Et là, donc, on voit d'abord les œuvres des années, disons, 46, 47, 48.
Pardon. Oui, et donc après son mariage avec Françoise Chapouton, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle évolution dans sa peinture?
On peut dire la palette s'éclaircit, visible dans des toiles comme, par exemple, Jour de fête.
Oui, en effet, c'était sûrement un jour de fête, comme un mariage. Oui. Si vous voulez bien, Martha, on va peut-être maintenant commencer notre visite guidée par vous de l'exposition. On commence dans les années 45?
45-46, oui. Alors ici, donc la première toile dans notre salle d'exposition, donc Porte sans porte, ou composition de 1946, qui marque une abstraction tout à fait absolue, qui s'effectue dans des couleurs, dans des tons très sombres, avec des lignes expressives, un graphisme presque hallucinant, et surtout une matière picturale extrêmement épaisse. Donc vous voyez, il y a des couches et des couches et des couches de peinture. Ce sont d'ailleurs des toiles qui pèsent beaucoup, qui sont très lourdes. Et c'est vrai, les tons sont très sombres ici, donc dominent les noirs, interrompus par quelques lignes blanches. Porte sans porte, une œuvre aussi apparentée avec Magnelli, n'est-ce pas, Magnelli, qu'il avait rencontré à Nice en 1940. Nous avons ici une autre grande toile de la danse qui déjà par rapport à la première un peu plus claire, même si elle était peinte en 1946, la même année. C'est une toile intéressante parce que vous voyez ici un enchevêtrement de lignes qui s'entrecroisent et qui évoquent un tourbillon, donc qui évoque en fait un mouvement de danse, n'est-ce pas, avec trois éléments centrales en plus clair, donc presque blanc, le deuxième au milieu, un troisième à droite dans les ocres. Mais on a l'impression, en regardant cette toile, ces lignes, n'est-ce pas, en fait de voir un tissage comme dans les tapisseries. En effet, Nicolas de Staël aurait vu une exposition sur les tapisseries tapisseries médiévales comme l'Apocalypse d'Angers ou la Dame à la licorne, qui l'aura inspiré donc à cette technique, hein, donc de la danse de 46. Et ce qui est très intéressant aussi, la toile à côté, 1947, toujours relativement sombre dans les tons, ressentiment. Dans une toile comme celle-ci, on voit que Nicolas de Staël garde quand même, respecte l'espace classique, une certaine profondeur de champ, malgré cette abstraction totale. Vous avez au premier plan, disons, c'est ce grillage composé des lignes noires épaisses, et au fond, vous avez donc tout ce mélange de lignes, toujours très expressif, mais dans des tons beaucoup plus clair, n'est-ce pas, qui évoque un espace donc bien classique, traditionnel.
Et le titre « Ressentiment ». D'ailleurs, deux tableaux très très célèbres, n'est-ce pas, de la danse et ressentiment de ces années-là, 46-47. Nous poursuivons notre visite. Voilà le fameux jour de fête que vous évoquiez tout à l'heure.
Tout à fait, jour de fête 1949. Alors déjà, jour de fête, pourquoi ? Déjà d'une part, Nicolas de Staël se trouve plus ou moins, disons, à l'abri des soucis matériaux. Il a enfin pu aménager dans un très grand atelier à la rue Goguet à Paris, donc qui lui permettait de peindre beaucoup, de peindre aussi des grands formats. Il a fait connaissance entre-temps aussi avec Theodore Shemp, un Américain qui va diffuser son œuvre, le faire connaître à New York, aux États-Unis. Jour de fête est une œuvre de transition, donc qui, vous voyez, la palette est beaucoup plus claire. Nous avons toujours donc ce graphisme, ces lignes expressives ascendantes et descendantes, mais apparaissent ici donc ce qu'on appelle ces champs de couleurs, n'est-ce pas, qui sont assez larges et qui annoncent les grandes compositions équilibrées des années de 1950.
Oui, et ce qui est partout extraordinairement remarquable, c'est ce que vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure, à la marge, qu'il utilise une pâte très épaisse, et qui donne donc parfois des tableaux très lourds, en effet, oui. Et il travaille beaucoup au couteau, n'est-ce pas ?
Au couteau, à la truelle. Il mélange lui-même ses couleurs, donc c'est tout un processus, toute une gestation qui se passe.
Ici, nous nous trouvons devant un magnifique tableau intitulé « Nocturne » de 1950, qui appartient à la Phillips Collection de Washington, D.C. Martha De Giacomi.
Oui, cette toile caractérise bien les compositions équilibrées de 1950. Donc des compositions qui se composent de larges plages de couleurs qui parfois s'entrecroisent, en fait s'enchevêtrent, qui semblent aussi dialoguer. Parfois aussi on voit des contrastes de couleurs comme justement ici, n'est-ce pas, ces trois plages de couleurs en rouge dominant par rapport aux plages de couleurs assez sombres, noires, vert olive, avec un cercle au milieu de la toile qui voit peut-être la lune en paysage nocturne, n'est-ce pas? C'est ça qui est fascinant avec l'abstraction. On peut vraiment s'imaginer ce qu'on veut. La même chose aussi à côté, vous voyez, toujours 1950, la composition de la Tate Gallery qui, elle, se compose de plusieurs plages de gris, disons bleu-gris, en restant les couleurs donc, assez monochromes. Mais là aussi, les formes vraiment donc, semblent répondre une à l'autre.
Ce que je trouve absolument admirable, c'est l'infinie variété des monochromes. Là, par exemple, vous avez en apparence, à première vue, des aplats, donc en noir ou vert olive, comme vous disiez, brun, et il y a une énorme subtile différence entre ces différentes plages, et dans les gris, c'est aussi très remarquable, entre le blanc et le gris foncé, il y a une infinie variété de gris et de jeux de couleurs, et d'ailleurs c'est un maître de la couleur, outre de la matière. D'ailleurs, on va peut-être évoquer le thème de la matière dans l'œuvre de Nicolas de Staël. Mais déjà, au point de vue couleur, c'est assez fascinant de voir derrière une apparente coloration dans le tableau nocturne entre le rouge et le noir, tout ce qui se cache derrière et tout ce qui fait désirer de voir un peu plus loin.
Oui, c'est vrai. C'est très difficile de le décrire à la radio, n'est-ce pas ? Parce que c'est vrai, on sent la matière, on sent la couleur, n'est-ce pas ? On sent les formes devant les œuvres qui émanent vraiment quelque chose de tout à fait particulier, n'est-ce pas ? Et c'est vrai qu'il faut vraiment se trouver devant pour ressentir presque son choc émotionnel devant l'étoile de Nicolas de Staël.
Absolument, c'est vraiment un peintre qui suscite énormément d'émotions, oui. Là, nous sommes donc devant une composition de 1951.
Oui, donc de nouveau une évolution stylistique importante. Alors déjà, en 1951, Nicolas de Staël va rencontrer pour la première fois René Char, l'écrivain René Char. Une longue amitié s'installe entre les deux hommes, d'ailleurs qui sont tous les deux très grands, donc physiquement très grands. Et René Char s'intéresse tout de suite à l'œuvre de Nicolas de Staël et écrit immédiatement après leur première rencontre, « Cher Nicolas de Staël, j'étais heureux de faire votre connaissance, votre œuvre me touche au plus haut point. » Et en 1951, les deux d'ailleurs vont faire un projet ensemble. Nicolas de Staël va illustrer les poèmes de René Char sous forme de lithographies en bois qui seront exposées à Paris donc, en décembre de la même année. Alors maintenant, en 1951, comme vous avez donc très bien vu, les compositions donc, en fait, sont marquées par des multiples disons, carrés, mosaïques si vous voulez, parfois dans les mêmes tons de couleur comme dans cette grande composition. Et vous voyez aussi en fait ces carrés, ces mosaïques si vous voulez, entourés donc par une sorte de halo de couleurs qui les fait presque un peu briller. De Staël avait vu ce printemps à Paris une exposition au sujet des mosaïques de Ravenne qui l'avait marqué, et c'est certainement cette exposition qui l'a inspiré à créer des compositions comme celle-ci. D'ailleurs, une fois de plus, on remarque que l'espace classique est bien respecté. Nous avons à partir d'une base ou d'un lit noir cette multitude de mosaïques qui émergent dans des couleurs assez sombres, dans les gris, dans les noirs. Et tout d'un coup, le regard est arrêté ici par cette barre blanche pour ensuite continuer vers la profondeur de la toile. Donc ces mosaïques dans les gris, beige et qui se terminent vraiment dans la profondeur du noir tout en haut. Et justement, ce style est très caractéristique donc des compositions de 1951, tout comme aussi, juste tout près, un deuxième tableau qui nous a été prêté par la Phillips Collection à Washington, donc Fugue 1951 également. Et figurez-vous, cette toile fut achetée par le collectionneur Duncan Phillips une année après sa réalisation, donc l'année suivante déjà, parce que Duncan Phillips, qui nous a prêté la Phillips Collection nous a prêté 4 œuvres de Nicolas de Staël, et le collectionneur donc était très visionnaire, il avait vraiment dans ce qui allait plaire, ce qui allait être important. Il avait acheté tout de suite donc aux États-Unis, je crois même à Londres, après la fameuse exposition chez Knoedler à New York au printemps 50, je ne sais plus si c'était chez Knoedler, non, je crois que c'était une autre exposition à New York, donc il avait tout de suite acheté donc cette œuvre.
Oui, qui est donc dans la pure abstraction. Il n'y a pas du tout d'éléments figuratifs dans ces années-là. Hein.
Absolument, oui.
Là, nous avons donc vu quelques compositions dans les années 51. Et c'est assez précis parce que chaque année, comme vous avez évoqué ça au début d'ailleurs, chaque année connaît une évolution importante dans l'œuvre de Nicolas de Staël. Et là, nous sommes devant quelques toiles magnifiques, comme toutes les toiles de Nicolas de Staël. Et nous sommes en 1952.
Oui, alors 1952 déjà. Début 52 avait lieu une importante rétrospective des œuvres Nicolas de Staël à la galerie Matisse à Londres. Donc il devient maintenant de plus en plus connu. En 52 aussi, Nicolas de Staël peint de plus en plus devant le motif. Il sort de son atelier, il va par exemple à Paris dans les parcs, comme dans le parc des Sceaux, dont nous avons ici la très belle toile grise, ou encore il peint devant les paysages. Et regardez ce qui est très, très intéressant. La toile 5 pommes. Nous avons une surface grise avec, disons, 5 mosaïques isolées. Alors, qu'est-ce qu'il fait par rapport à 51? En 50, donc, il extrait ces tesselles, si vous voulez, ces éléments carrés, pour les poser d'une manière isolée sur une surface plane et crée ainsi donc une nature morte appelée 5 pommes. Donc ça, c'est vraiment maintenant la toute grande nouveauté stylistique qui se manifeste donc en 1952.
Où il introduit un essai de figuration. En tout cas, le sujet apparaît peu à peu.
Tout à fait. nous avons le même processus dans la toile à côté, intitulé des bouteilles, donc qui fait partie de toute une série qu'il avait vouée aux bouteilles, ce qui est déjà aussi ce qu'on remarque en 52, la couleur devient très intense, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment en présence des couleurs fauves. Regardez ce rouge extrêmement lumineux avec le bleu outre-mer, ces verts turquois, et surtout les bouteilles. Nicolas de Staël parlait lui-même d'une procession des bouteilles. Il ne voit pas très bien laquelle se trouve en tête de procession, et par ces formes imprécises, n'est-ce pas, ces bouteilles semblent bouger, ça semble vibrer dans la toile. Il avait donc, je crois que c'était au printemps, il devait préparer une exposition à la galerie Daniel Malingue à Genève. Et là, il peignait beaucoup ces bouteilles. Et d'ailleurs, il avait des gens qui venaient dans son atelier, je crois que c'était l'assistante de Georges Braque, qui disait, ah là, c'était au moment où il peignait les bouteilles. C'était gai, c'était colorié, ça bougeait partout et c'était très gai. Donc il faut vraiment donc, être un artiste dans l'âme pour peindre des bouteilles.
Oui, oui. Vous disiez que Nicolas de Staël disait que c'était comme une procession de bouteilles, et en effet, on pourrait imaginer aussi des figures humaines, et il y a une structure des bouteilles ou à leur figure qui sont placées de telle manière qu'on peut vraiment suivre un mouvement dans cette soi-disant procession de bouteilles.
Comme des personnages, absolument, oui.
Autre événement très important en 1952, c'est l'événement footballistique. Alors c'est étonnant, mais c'était vraiment important dans sa vie. Donc en 1952, Nicolas de Staël assiste au Parc des Princes à Paris, donc au match Paris-Suède. Et alors il en était fortement impressionné, et ça donnait lieu à une production de 24 toiles autour de ce thème. Alors racontez-nous ça un petit peu, Martin.
Oui. Alors le match avait lieu exactement le 26 mars 1952, et en plus la grande nouveauté, et ce qui va provoquer un choc émotionnel chez Nicolas de Staël, c'était un match en nocturne, le premier match donné en nocturne, en pleine nuit. Alors vous imaginez un peu, donc il était avec Françoise dans ce stade de Parc des Princes, il assiste à ce match et finalement je crois que c'était l'équipe de Suède qui a gagné, mais peu importait. Alors Nicolas de Staël était tellement impressionné par ce jeu, de ce mouvement, cet éclairage, que la nuit même, il rentre chez lui et commence tout de suite cette série des 24 tableaux sur le thème des footballeurs de différentes grandeurs, deux très grands comme celui-ci, donc le grand Parc des Princes, mais il a aussi de petits formats qui sont exposés juste à côté de la salle Franck, et le tableau de format moyen qui appartient à la fondation Pierre Giannata, en fait à la collection privée de Leonard Giannata,
qui est une récente acquisition.
Non, je crois qu'il a acheté cette toile, si je me rappelle bien, en 1991, dans cette zone-là, je crois bien, oui, 91.
Il s'appelle donc aussi Les footballeurs de 1952.
Exactement, exactement.
Dans la collection de la Fondation Pierre Giannata.
Exactement, et qu'on prête aussi donc, très volontiers à d'autres expositions. Et là, Nicolas de Staël exploite vraiment toutes les possibilités visuelles d'un match de foot. Par exemple, ici, devant ce très grand format, vous voyez donc, en fait, le ciel nocturne, mais contrasté par ces formes blanches à gauche qui sont à la pointe du déséquilibre, et la luminosité, n'est-ce pas, l'éclairage émane carrément de la couleur, n'est-ce pas. On n'a aucune difficulté de s'imaginer ici un match donné en nocturne et où les joueurs sont éclairés par les spots en pleine nuit.
Ce qu'on voit ici à nouveau, cet extraordinaire mouvement de la matière, parce que la matière donc toujours très épaisse, typique de Nicolas de Staël, et alors ce mouvement qu'il réussit à créer, on peut vraiment, avec un peu d'imagination, se sentir au Parc des Princes, parce que c'est ainsi que le tableau est nommé, n'est-ce pas?
Oui, c'est le grand Parc des Princes, exactement, donc, qui appartient à une collection particulière, oui.
Il a une dimension impressionnante.
Oui. tout à fait, je crois 3,60 m fois presque 3 mètres et quelques. Et vous avez ce qui était très intéressant, parce que pendant l'accrochage, vous savez qu'il avait donc en fait le mondial du foot, et c'était le jeudi, je crois 17 juin, le jeudi 17 juin, le tableau est arrivé dans une immense caisse, et au moment...
Ah, vous voulez dire aujourd'hui en 2010, on n'est plus en 1952.
Oui. Ah oui, en 1900, donc cette année, donc, c'était justement pendant l'accrochage, donc les caisses avec les œuvres de Nicolas de Staël étaient ici, donc en fait partout dans la salle, et voilà, on a ouvert la caisse, et au moment où on a sorti ce grand tableau de la caisse pour l'accrocher ici au mur, ben, on venait d'apprendre que la Suisse avait gagné le match contre l'Espagne.
Oh là là, mais bravo, félicitations. Ça s'appelle une belle synchronicité entre le sport et l'art, ou c'était entre l'art et le sport.
C'est vrai, c'était très symbolique, oui, juste pour la petite anecdote. Mais pour revenir maintenant donc, au thème des footballeurs, d'ailleurs, Nicolas de Staël écrit donc, au mois d'avril une lettre à son ami René Char. Et écoutez justement la phrase clé, n'est-ce pas, qui est tellement littéraire, parce que Nicolas de Staël, n'est-ce pas, c'est un bel écrivain aussi. Il choisit les mots, vraiment des très beaux mots. Alors il écrit, je cite, « Entre ciel et terre, sur l'herbe rouge ou bleue, une tonne de muscles voltige en plein oubli de soi, avec toute la présence que cela requiert en toute invraisemblance. Quelle joie, René, quelle joie !» C'est vrai, c'est beau,
oui.
Ça.
Ah oui. Oui, d'ailleurs, il a beaucoup de réflexions très profondes, comme sa peinture en témoigne d'ailleurs. Mais au point de vue écriture, donc littéraire, il est aussi constamment en recherche.
Absolument.
Sa vie était donc très, très intense et malheureusement très courte. Nous passons peut-être à un autre tableau maintenant en 1953, très, très connu. D'ailleurs, il fait l'affiche du catalogue. Les musiciens, souvenir de Sidney Bechet.
Alors en 1953, déjà aussi riche en événements, début 53, donc en mars 53, a lieu sa grande rétrospective à New York à la galerie Knoedler, avec un succès absolument fulgurant. Donc un tel succès que le marchand des tableaux Paul Rosenberg lui demandera l'exclusivité pour la vente de ses toiles aux États-Unis. Donc Nicolas de Staël est vraiment maintenant totalement à l'abri des besoins matériels, donc il est, on peut dire, c'est un homme riche, donc qui vit bien à l'aise. En 53 aussi, il commence à s'intéresser à la figure humaine, comme on peut le constater ici. Donc les musiciens souvenirs de Sidney Bechet montrent donc les musiciens, des musiciens de jazz, debout, avec saxophone, avec instrument de vent, dans des couleurs éclatantes. Des jaunes acides se confondent avec les rouges vermillons, avec des bleus foncés, les bleus turquois, les bleus outre-mer. Et justement ces couleurs, n'est-ce pas, rendent ce tableau sonore, n'est-ce pas. Lorsqu'on regarde cette toile, on entend quasiment la, disons, la musique de jazz. Alors, de Staël non seulement aimait la musique de jazz, mais surtout aussi la musique contemporaine de son époque. Il avait fréquenté le domaine musical qui était créé par une femme, Suzanne Tézier, qui, elle, était en contact, qui invitait des compositeurs contemporains comme Messiaen, comme Pierre Boulez, comme Schoenberg, comme Webern. Et de Staël souvent allait donc écouter des concerts donc, au domaine musical. Et d'ailleurs, donc, la fin de sa vie, son ultime toile, mais on en parlera plus tard, donc la très très grande composition donc, appelée Le Concert. Mais pour le moment, nous sommes encore en 1953.
Il a, deux années avant sa mort, oui.
Oui, exactement. Et il a rendu hommage à Sidney Bechet dans deux tableaux. Celui-ci, donc, en fait, qui se trouve à la Fondation Pierre Janada actuellement, appartient donc, au Centre Georges Pompidou à Paris. Et la deuxième toile est conservée à la Phillips Collection à Washington. Nous sommes arrêtés au tableau Les musiciens, souvenirs de Sidney Bechet. Et ici, il y a une autre série de figures dans les années 1953. Magnifique.
Voilà, deux tableaux assez importants au niveau de taille, de presque 2 mètres de haut. Donc d'abord en nu Jeanne, ou en nu debout, et deux figures à côté. C'est vrai, en 1953, Nicolas de Staël s'intéresse davantage à la figure humaine. On avait déjà vu ce phénomène dans les musiciens souvenirs de Sidney Bechet. Et ici, en fait, donc vous voyez ici par exemple nu Jeanne, donc nu debout, ce nu debout qui est vraiment évoqué avec justement quelques coups de pinceau, surtout coups de truelle, coups de couteau ici. Et de nouveau, les contours sont complètement, disons, dans le vague. C'est la même technique aussi que nous avons déjà constatée dans la série des bouteilles en 1952. Et là, lorsque vous voyez ces figures dans l'espace, ils semblent comme les bouteilles, en fait, bouger, donc en fait, pénétrer au plus profond de la toile. Donc c'est vraiment la particularité de Nicolas de Staël.
Et en même temps presque translucide.
À la fois translucide, comme des statues aussi, bien présents, mais vraiment, ça semble voilà, bouger dans l'espace de la
composition. Oui, avec un halo comme entrée dans l'immatériel.
Oui, c'est vrai, c'est en fait comme la technique des mosaïques qu'on avait vu dans les compositions de 51.
Oui, après sa visite de l'exposition des mosaïques de Ravenne, oui. Donc ce sont les deux figures qui sont présentes ici à la Fondation Pierre Janada de 53, et après nous passons à une grande série qu'il a peinte lors de sa visite en Sicile, notamment à Agrigente et à Syracuse.
En fait, c'est plutôt après, parce que nous sommes toujours dans l'année 1953, et c'est cette année-là aussi qu'il partira avec sa famille en Italie. Il va faire son permis de conduire vite fait, bien fait. Il s'achète une camionnette, une vieille camionnette Citroën, et là, il part, donc je crois que c'est en août ou en août-septembre, avec sa famille, donc Françoise, Nicolas, avec les enfants. Donc Antoine, donc le fils du premier mariage de Jeannine, avec Anne, avec Jérôme et avec la famille, vont partir deux jeunes femmes, une Siska qui était femme peintre aussi qui parlait l'italien, et une deuxième c'était Jeanne, une Jeanne qui lui aurait été présentée par René Char. Et maintenant, vous imaginez donc cette famille qui part en voyage.
Une petite colonie de vacances.
Exactement, une colonie de vacances peu banale, parce qu'à une nuit, c'est en dehors à la Belle Étoile, la deuxième nuit, en dehors dans les palaces. Donc vraiment un voyage, on peut presque dire excessif, un peu qui correspond au caractère de Nicolas de Staël. Donc cette famille va visiter l'Italie, Ravenne, Florence, on passe par Rome, et ensuite, on arrive donc en Sicile. Et là, Nicolas de Staël écrit, voilà, il est ébloui par ces ruines, surtout par Selinunte Agrigente. Il écrit dans une lettre, « Je voyage de France en Italie, d'Italie en Sicile. Le point culminant fut Agrigente et le musée de Syracuse. » Alors, il est tellement, de nouveau, une sorte de choc visuel se produit en lui, ce soleil épuisant, les antiquités, les ruines. Alors, il peint rien sur place, il va prendre des notes, des esquisses, et c'est seulement donc, en rentrant en France, déjà fin 53, mais surtout en 54, qu'il réalise cette fameuse série de nombreux tableaux, dont le titre est Agrigente, ou Agrigente, comme on dit en français. Et là, nous avons une très belle série de 7-8 tableaux, donc de ce périple, comme par exemple ici, fin 53, le fameux Agrigente du Kunsthaus à Zurich, qui est une toile fascinante parce que vous avez déjà en fait le ciel noir qui occupe la partie supérieure et ensuite contrasté par ces masses blanches. Donc nous avons d'une part ici un contraste au niveau des couleurs, mais aussi contraste au niveau de la technique picturale, puisque le ciel noir est traité avec ces coups de pinceau excessivement donc, expressifs, nerveux, mais équilibré par, disons, ce travail à la spatule, n'est-ce pas, très lisse, n'est-ce pas, qui rendent ces ruines en fait encore plus éternelles que pourrait
faire dans le blanc, siècle, oui.
Dans le blanc, hein. Donc c'est vrai, c'est une œuvre donc, qui est très surprenante.
Oui, et qui évoque quand même déjà le temple d'Agrigente. Mm-hmm.
de magnifiques tableaux, donc de paysages de Agrigente, et principalement, enfin de Sicile, en tout cas de ce voyage extravagant. Mm-hmm. On imagine, ils étaient combien en tout, quelque chose comme 10 ou 12 personnes?
Oui, de la petite colonie enfants, les deux jeunes femmes, et surtout Nicolas de Stas, regardez ces couleurs, n'est-ce pas, dans chacun des paysages. Vous avez ici, par exemple, dans Agrigente 54, en ciel qui est violet profond, à côté en jaune citron acide qui se marie avec orange, avec du rose, avec du rouge. C'est vrai, c'est quand même audacieux de peindre donc des paysages avec ces couleurs-là. On assiste ici à une synthèse qui transmet parfaitement bien cette chaleur en Sicile. Ce voyage ne se passe pas aussi harmonieux qu'on pourrait le croire, puisque Nicolas de Staël est totalement fasciné. Il tombe en fait fou amoureux de cette jeune femme, Jeanne, à tel point qu'il va quitter la famille en automne 1954. Il va quitter sa famille en 54 et après un paysage à Paris, durant lequel d'ailleurs il réalise plusieurs vues nocturnes comme le fameux pont Saint-Michel qui est créé dans des tonalités de noir, de gris et de blanc, où vous voyez ces deux ponts parallèles, le pont Saint-Michel avec derrière la cathédrale Notre-Dame de Paris avec la conciergerie à droite. Mais on voit maintenant que son style pictural commence à se modifier. Vous voyez, par rapport aux compositions précédentes, maintenant la matière s'est vue beaucoup plus fluide. Et surtout, il s'installe...
Moins épaisse, oui.
Oui, exactement. Et il s'installe à Antibes, il est toujours très hanté par cette Jeanne et il travaille énormément. Il peint, il est de plus en plus obsédé par la peinture et figurez-vous, il écrit depuis Antibes une lettre déjà qui montre son état d'esprit. Il écrit une lettre, par exemple, justement à Sisca, donc depuis Antibes. « Cher Sisca, je n'ai pas de bonnes nouvelles à te donner sur ma voix et mon rire, mais j'ai beaucoup travaillé cet été et essaye de m'installer aussi inconfortablement que je puis à la mer pour vivre mal, voir mal et faire ce que je peux comme tableau. Cela finit par être une habitude à couper un cœur en morceaux. » Vous voyez déjà donc l'état d'esprit, donc c'est tout sauf qui. Hein. Et il faut se dire aussi, de Staël se trouve en plein hiver, donc à Antibes, vous voyez, donc en hiver, ça doit être très mort, la mer lourde, pesante, il n'a pas de vie, et quelqu'un qui a déjà un état d'esprit, disons, qui n'a pas trop le moral, donc ne doit pas se sentir à l'aise. Mais contrairement à son état d'esprit, cette pression, si on veut, parce qu'il se rend compte que Jeanne, finalement, ne veut pas quitter son mari et ses enfants pour vivre avec Nicolas de Staël. Donc, curieusement, cet état d'esprit crée des œuvres d'une sublime beauté, surtout des nombreuses des natures mortes. De Staël avait revu les œuvres des Velázquez de Goya, des peintres espagnols au Prado, suite à un bref voyage en septembre 54. Alors pour lui, vraiment, Velázquez, donc il le met presque au-dessus de tout. Et là, donc, il crée ces nombreuses natures mortes, comme ici, Nature morte au Bocaux, n'est-ce pas, qui est une composition, c'est vrai, assez osée, avec, où domine, donc, sur deux tiers de la composition, ce fond gris avec trois peaux, qui sont trois bocaux, si on veut, qui sont là bien présents, qui évoquent un peu Velázquez ou les bodegones espagnols, et qui sont, comme ça, posés sur ces couleurs très vives, sur les jaunes, ces carrés jaunes, rouges, bleus, blanc, un peu violet, ou encore, il peint beaucoup aussi ses outils, donc le peintre, n'est-ce pas, des peaux, ses propres peaux et pinceaux, ou encore ici, de la table de l'artiste, ou comme ici, encore la petite composition Nature morte au verre. Donc, il peint énormément de nature morte. Et également des ateliers que nous allons voir un peu plus loin, des superbes ateliers dans des grands formats. Donc voilà ce qui caractérise son œuvre, disons fin 54 et surtout début 55, quelques mois, on peut presque dire quelques semaines avant son suicide en mars 55.
Oui, ici nous arrivons à une nouvelle série que vous évoquiez tout à l'heure, une série de peintures de son atelier.
Oui, donc Donc ce sont des grandes compositions. Nous avons d'abord ici le coin d'atelier d'Antibes, donc de fin 54, début 55, qui appartient au Kunsthaus Bern. Et là, on voit, il cherche les nuances de couleurs, n'est-ce pas? Il reste un peu dans les mêmes rouges. Et d'ailleurs, il applique la couleur maintenant, non seulement avec le pinceau, mais aussi avec des voiles de coton, avec des gaz, n'est-ce pas? Pour donner cet aspect translucide. Ici, une peinture qui n'est pas sans évoquer les Color Fields de Rothko, d'ailleurs, qu'il avait connu et qui Rothko exposait déjà bien donc, aux États-Unis. Toujours à cette même série, ce très grand coin d'atelier fond bleu de 1955. Et là, je dirais, cet atelier annonce bien déjà son état d'esprit, puisque même si vous avez ces plages de couleurs très, presque translucides, dans les blancs, dans les beiges, dans les bleus ciel, vous avez déjà au fond ces bleus sombres, ces deux bleus noirs qui annoncent un peu presque la transition vers la vie, donc le passage, disons, vers une autre vie, n'est-ce pas? On sent quelque chose de presque un peu qui s'approche de la mort, parce que l'état d'esprit de Nicolas était loin d'être positif à ce moment-là. Donc il se posait lui-même des questions et il disait par exemple... Et je n'ai plus la force de parachever mes tableaux. Et curieusement, ces derniers 6 mois, une production énorme, parfois 3, 4, 5 tableaux à la fois. Donc il va réaliser plus de 350 tableaux pendant donc, les 6 derniers mois. Donc ça veut, on comprend, c'est une surproduction.
Énorme.
Ouais. Voilà, c'est énorme. Et d'ailleurs, il dort.
Et en plus de grands tableaux.
Des grands tableaux, des formats de plus en plus grands. Il travaille de plus en plus, il dort presque plus. Et évidemment, ce phénomène de surfatigue amène à cette production, à cette donc hallucinante. Regardez comme ici ce grand nu couché bleu. Donc là, nous sommes de nouveau confrontés avec cette Jeanne. D'ailleurs, on la reconnaît très bien avec sa grande chevelure noire. Et regardez avec quelle simplicité, mais quel moyen grandiose. Il pose ce nu au milieu de la grande composition avec en haut ce rouge vermillon profond. Le nu lui-même se tourne, disons vers trois quarts vers l'intérieur de la toile et ces quelques coups de pinceau donc évoquent ce nu bleu, donc bleu azur couché sur un édredon blanc, mais en même temps aussi évoque peut-être un paysage ou bien une montagne ou un fleuve. C'est vrai, c'est une des dernières œuvres qu'il a peint avant de se suicider.
Ici, nous nous trouvons au beau milieu de ce temple de l'art, qui a d'ailleurs été construit au-dessus d'un temple gallo-romain, parce que c'est toute une histoire, n'est-ce pas, la création de la Fondation Pierre Giannada. Oui. Donc, on peut imaginer radiophoniquement ce merveilleux espace ouvert, avec au milieu les dernières très grande toile de Nicolas de Staël. Et vous voulez commencer par les bateaux, peut-être, Martha de Giacomi?
Oui, alors Nicolas de Staël peignait aussi beaucoup ce qu'il voyait depuis la fenêtre de son atelier, comme les bateaux, ou aussi comme ici, donc les mâts. C'est un très beau tableau qui appartient à une collection particulière et qui n'est pas très souvent traité pour une exposition. Et comme j'avais dit tout à l'heure, donc, il a peint ses tableaux en plein hiver. Il se trouve à Antibes, novembre, décembre, janvier, février, dans un état d'esprit, disons, pas très joyeux. Et surtout, regardez aussi à côté les mouettes qui annoncent aussi parfaitement bien son état d'esprit dépressif. On se rappelle que Vincent Van Gogh, avant de se suicider, avait peint des corbeaux sur un champ de blé. Ici, c'est presque un peu pareil. N'est-ce pas, ces mouettes qui ont toute la peine au monde de s'envoler. C'est lourd, on a la peine à respirer. Tout ceci va se confirmer puisque de Staël, le 5 mars, donc 10 jours avant son suicide, va quitter Antibes pour assister à un concert à Paris. Il va écouter 2 concerts avec la musique de Webern et de Schönberg. Après ces 2 concerts, il rentre à Antibes et commencera son ultime œuvre, plus grand que jamais, gigantesque composition de 6 mètres de long et 4 mètres de haut, le fameux concert duquel nous avons donc une aquarelle préparatoire qui se trouve dans le compartiment des dessins. Alors, il commence cette œuvre, donc c'est ce fameux grand concert avec en fond rouge foncé vermillon, avec à gauche un gigantesque piano à queue, avec au milieu les partitions, à droite une grande contrebasse. La toile n'est pas tout à fait terminée.
Et ensuite, elle se trouve où aujourd'hui?
Sauf erreur, elle est conservée au musée Picasso à Antibes. Et cette composition qu'il n'a jamais terminée, mais il avait vraiment jonglé avec l'idée de se donner la mort. Mais disons, il était dans un état gravissimement dépressif. Alors, ce qu'il fait, la nuit du 15 au 16 mars, il écrit trois lettres. La première à son ami, à son grand ami Jacques Dubout, qui était son marchand parisien. La deuxième à son grand ami de longue date, qui était Jean Bourret. Et la troisième concernait sa fille Anne, qui avait 13 ans à l'époque, sa première fille avec Françoise. Ah oui. Il écrit la lettre à Jacques Dubourg. Jacques, j'ai commandé chez un petit menuisier ébéniste près des remparts deux chaises longues en bois dont j'ai payé une, cela pour Menerbe, donc le castelet qu'il avait acheté en 53. Aux soins de la douane, il reste toujours les papiers, sont la compagnie générale qui transporta mes tableaux la dernière fois, tous les papiers concernant ces petites chaises et tabourets que j'ai achetés en Espagne, aussi pour Menerbe. Je n'ai pas la force de parachever mes tableaux. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi.
Bon. C'est comme une lettre d'adieu.
C'est affreux, tout à fait. Il était déterminé. Et puis ensuite, il écrit à Jean Bourret, « Cher Jean, si vous avez le temps, voulez-vous, au cas où l'on organise quelques expositions, que ce soit de mes tableaux, dire ce qu'il faut faire pour qu'on les voie. Merci pour tout. » Et la troisième lettre, donc, au sujet de sa fille Anne, pour qu'elle n'ait point de soucis donc, financiers. Hein. Et ces trois lettres, il les a laissées sur la table de la cuisine. Et ben voilà, le lendemain matin, le 16 mars, on trouve son corps, donc sans vie, sur les remparts, donc devant son atelier. Donc il s'est donné la mort à l'âge de 41 ans.
Est-ce qu'il n'est pas arrivé au bout d'une recherche ? Qu'il avait l'impression que entre l'abstraction et la figuration, et c'est entre deux qu'il était arrivé au bout de quelque chose.
Non, je ne pense pas qu'il est arrivé à bout de quelque chose, parce que justement son style est tellement raffiné, tellement novateur. Je pense qu'il avait encore vécu longtemps. Regardez cette nouveauté dans les grands ateliers, donc bleu et rouge, c'est quelque chose de tout à fait raffiné, de nouveau, avec une recherche au niveau des nuances. Non, pourquoi est-ce qu'il s'est donné la mort? C'est difficile. Il avait déjà lui-même un caractère excessif. Mais ensuite, il était déjà dans un état de dépression et certainement, cette jeune femme, Jeanne, n'est-ce pas, donc il avait compris que finalement, donc il était vraiment obsédé par cette femme, paraît-il. Hein, et donc, il avait compris qu'elle n'était pas prête à le joindre. Ça a aussi certainement fait beaucoup. Mais j'aimerais vous citer justement quelque chose, une phrase que Nicolas de Staël avait prononcée lors de sa première grande rétrospective à la Galerie Knödler à New York. Et cette phrase vraiment explique tout. Alors il disait justement, toute ma vie, j'ai eu besoin de penser peinture, de voir des tableaux, de faire de la peinture pour m'aider à vivre, me libérer de toutes les impressions, toutes les sensations, les inquiétudes auxquelles je n'ai jamais trouvé d'autres issues que la peinture. Et je crois on peut dire qu'il est mort par sa peinture.
Voulez-vous peut-être nous évoquer en quelques mots les principales caractéristiques au niveau de la peinture, parce qu'il a beaucoup travaillé la matière, la couleur et le mouvement. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être encore quelques mots à ce sujet?
On ne peut pas en une phrase, disons, résumer le style, disons, de ce qu'il a peint pendant 10 ans, parce qu'on avait justement vu au courant de cette visite que son style se modifie d'année en année, ce que nous avons évoqué. Et je crois qu'on se rend compte de l'impact de sa peinture, de son style, des couleurs, de la matière, en se trouvant devant les œuvres de Nicolas de Staël pour bien sentir le peintre, son œuvre.
Et cette profondeur qui se sent à chaque tableau, vraiment cette profondeur qui va bien au-delà des couleurs et bien au-delà de la matière, vraiment comme à chaque fois une entrée dans quelque chose qu'on pourrait peut-être nommer l'invisible. Voilà. Et l'immatériel. Nous avons suivi en votre compagnie, Martha de Giacomit, extraordinaire existence d'homme et de magnifique artiste Nicolas de Staël et sa trajectoire vraiment tragique et sublime.
à travers ce grand voyage qu'il a connu depuis Saint-Pétersbourg jusqu'à Agrigente et Antibes. Merci infiniment, Marta De Giacomi, de votre merveilleuse visite de cette exposition. Et j'invite tous nos auditeurs à venir à Martigny, en Suisse, dans le Valais, une région d'ailleurs magnifique, absolument, pas seulement en été, mais aussi en hiver, pour les montagnes et pour ce temple de l'art, comme je disais tout à l'heure, qu'est la Fondation Pierre Giannada à Martigny. Merci beaucoup.
Merci à vous. Donc, jusqu'au 21 novembre, l'exposition est ouverte tous les jours de 9h à 19h, donc on se réjouit davantage maintenant de vous accueillir.
Merci beaucoup. Et puis on peut évoquer aussi le magnifique jardin de sculpture qu'a créé Léonard Giannada, le frère de Pierre Giannada. Mais ça, c'est une autre histoire que nous avons d'ailleurs évoquée déjà lors d'une précédente émission à l'occasion de l'exposition Balthus. Nous avons évoqué l'historique de la Fondation Pierre Giannada. Merci encore, Marta. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.